Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes bons amis, bienvenue Place du Marché pour cette semaine et la fin septembre en général, qui marque la saison des concours, des jurys, des palmarès, des trophées dans le monde de la cuisine et les métiers de bouche en général. Ensemble avec mes invités EES, que des femmes ce matin dans le studio, j'en suis très heureux. Nous allons revenir sur cette pléiade de prix qui ont été distribués cette semaine. Des pléiades de prix, de trophées, de distinctions qui sont un bon indicateur en fait de la santé du secteur. Et on va d'abord présenter les invités, si vous le voulez bien. À côté de moi, Chantal Delamotte. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Chantal, on s'était déjà vu l'année dernière.
Hein, absolument.
Et entendu. Vous êtes la directrice du salon Gourmet Sélection, qui est un salon qui s'adresse à la profession de l'épicerie fine, de l'épicerie de spécialité, on peut dire.
Absolument. Et bon. De petits producteurs, commerce de bouche.
Bon, ah oui, quand même. Dans un instant, on donnera d'ailleurs le palmarès qui a été révélé lundi dernier. Et croyez-moi, il y a des pépites. Et d'ailleurs, à côté de moi également, Leslie Gaugois, qui est rédactrice en chef de Yam magazine de chef. Leslie était dans le jury de cette sélection des produits gourmets.
J'ai eu cette chance. Oui, oui, une grande chance. J'étais là.
Elle était là. Alors, je vois en face Annabelle Chachmès, qui était aussi présente à cette remise de trophées, hein, de best-of,
fait.
Ce qu'on appelle les best-of, parce qu'elle était aussi dans le jury. Elles m'ont bien aidé, j'y étais aussi. Hein. Elles m'ont bien aidé à goûter tous ces merveilleux produits voués à l'épicerie et qui embellissent pas seulement nos placards, mais plutôt nos cuisines, hein, parce qu'évidemment, il faut les ranger à un moment donné, mais il faut surtout les sortir. Je vous promets des pépites tout à l'heure, dans un quart d'heure. Mais j'aimerais commencer avec Anne Luzin, la directrice du magazine Le Chef, qui, comme chaque année, a organisé une magnifique soirée. D'ailleurs, je rends hommage à mon confrère, il faut le citer, hein, Stéphane Rottenberg, qui vous a épaulé dans cet exercice qui est de remettre tous ces trophées à la profession. Hein. Quand on dit les trophées Le Chef, ça ne s'adresse pas qu'aux cuisiniers et aux chefs.
Non, effectivement, il y a plusieurs... Déjà, bonjour, merci de m'avoir invité, Vincent. Il y a plusieurs catégories, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on essaye de voir la cuisine dans son ensemble. Donc il y a effectivement les chefs.
Et la restauration.
Et oui, tout à fait. Ouais. Il y a les chefs, il y a la sommellerie, la pâtisserie, la salle. Et puis d'autres distinctions sur lesquelles on viendra juste après.
D'accord. Alors, lundi dernier était dévoilé ce palmarès. Donc, hein, très attendu, comme je le disais tout à l'heure, par la profession, parce que c'est vraiment un high spot, un highlight de la saison de la cuisine.
Ah, on passe en anglais, donc. Hein,
deux secondes. Là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, moi, encore une fois, j'y étais. J'étais partout cette semaine. Je sais même pas comment j'ai vécu cette semaine. Et quelle belle soirée. Alors, Anne... il faut dire qu'il y a combien de prix qui sont remis, en fait, combien de catégories ?
Voilà, alors il y a quatre catégories élections, c'est-à-dire que c'est un vote de la profession, on envoie des bulletins de vote aux 6000 référencés Michelin, et après, il y a des distinctions, si on peut les appeler comme ça, il y a un prix de la transmission qu'on remet... un transmetteur, un passeur.
Alors là, c'était Jean Bardet,
oui.
Super truculent, joyeux.
Plein d'anecdotes, très content. Et
vous avez eu du mal à le tenir. Hein.
Bah, il y a un moment, le temps de parole n'est pas extensible, donc on a dû un petit peu raboter.
Puis Stéphane, il est gentil, donc il n'avait pas envie de lui couper la parole.
Exactement.
Et Jean Bardet, on le connaît, c'est vraiment un personnage rablaisien. Hein. D'ailleurs, il a fait toute sa carrière à Tours, donc même s'il est berrichon d'origine. Et puis, c'est vraiment la cuisine à l'ancienne, la faconde, Voilà, il est exubérant.
Il fait partie du paysage gastronomique et c'était pour nous aussi important de lui faire un petit hommage.
On était contents de le voir sur scène. Il y a les jeunes aussi.
Les tremplins, effectivement, alors qu'ils sont plus ou moins jeunes. Les tremplins, c'est des gens qui se lancent dans l'année. On salue aussi cet esprit entrepreneurial qui n'est pas évident aujourd'hui. Et ouvrir un restaurant, c'est un vrai challenge. Donc, ils étaient six. Il y avait deux Parisiens, Thibaut Spiwak chez Anona et Sylvain Sandra, Fleur de Pavé, qui ont ouvert tous les deux, je crois, il y a 3 ou 4 mois. Et après, on s'est baladé un peu en France. Il y avait Christopher H.
Ah oui, à Saint-Rémy-de-Provence,
voilà, un homme de palace qui est parti s'exiler, si je peux dire comme ça, à Égalières et qui a ouvert sa propre maison.
Ah oui, c'est ça, Égalières, pardon, donc, juste à côté.
Juste à côté, il a pris un gros risque, mais je crois qu'il est très content d'être chez lui. Il y avait Fabrice Idiard, Moulin d'Alotz, dans le sud-ouest.
Oui, voilà. Avec un look à la D'Artagnan extraordinaire.
Un peu, ouais. Effectivement. Et puis, il y avait deux top chefs, parce qu'il faut quand même le dire que ce sont des gens qui percent, qui ouvrent leur restaurant, qui ont des étoiles. Et cette année, il y avait Colin Folquier, signature à Marseille, et Xavier Pincemain, qui a ouvert le Pincemain à Versailles.
Voilà, alors, je vois Leslie Gogoua qui fait « oui ».
Elle doit les connaître.
Parce que vous deux, vous vivez au milieu des chefs, en fait. Hein. C'est quand même votre ADN. Il
faut avoir le sens du sacrifice, bien sûr, au quotidien.
D'un sacrifice. Ouais. Je ne connais que des gens qui voudraient faire votre métier, hein, Leslie, vous le savez bien.
On peut leur laisser une part du métier, je pense, qui n'est pas forcément la plus facile.
C'est-à-dire quand il faut déguster tous les jours, quand il faut être assis à table tous les jours, et garder la ligne parce que vous êtes des belles femmes et que vous avez envie de faire attention à votre ligne.
Eh bien, on prend le compliment, Leslie.
Oui, c'est le moment. Très bon dimanche matin.
C'est comme ça que nous, à Sud Radio, on est comme ça, on parle vrai. Quoi. Voilà, ça y est bien. Alors,
il y avait les tremplins, il y avait aussi un concours espoir qui a été remporté par un jeune de l'hostellerie de Plaisance chez Ronan Kervaret qui a eu lieu l'après-midi.
C'est le successeur de Philippe Etchebest.
Oui, si on peut dire ça comme ça. Alors, le jeune, je ne sais pas s'il restera dans la région, mais en tout cas, il est aujourd'hui là-bas. Et après, on est passé effectivement aux élections. Donc, on a commencé avec
attendez, quand vous parlez d'élections, c'est toute la profession. C'est vos lecteurs, mais c'est grosso modo
nous,
toute la gastronomie.
Nous, on prend le guide Michelin. Voilà. Il y a 6000 référencés. On leur envoie effectivement 4 bulletins de vote.
Un questionnaire, d'accord.
4 bulletins de vote.
Et comment est-ce que ça fonctionne dans la tête d'un chef? Est-ce que vous êtes prescripteur? Est-ce que vous donnez des noms et il faut cocher? Ou alors ils peuvent mettre qui ils veulent?
Alors, sur salle, pâtisserie, sommellerie, on donne des noms parce qu'effectivement, tous les acteurs ne sont pas forcément connus comme les chefs et qu'il faut bien à un moment leur offrir un choix. Oui. Donc, on fait une sélection. En général, j'appelle les anciens gagnants. Voilà, on demande qui a marqué la profession l'année. On essaye de mailler la France, de mailler les maisons, de faire quelque chose
d'éclectique un peu.
Exactement. Mmh. Et après, sur le chef de l'année, en revanche, les chefs votent de façon libre. La seule obligation, c'est qu'un chef ne peut pas être chef de l'année deux fois.
Ah bon ?
Voilà. Donc, on ne peut pas avoir ce titre deux fois. Donc, tu ne peux pas voter pour quelqu'un qui a déjà eu le titre. Sinon, tu votes pour qui tu veux.
Contrairement au Goncourt. Parce qu'il suffit de changer de nom, parfois. Oui. Donc, un chef masqué pourrait éventuellement être deux fois chef de l'année s'il change de nom ou peut-être de sexe aussi.
Oui.
Se faire opérer et puis hop. Passe dans une autre catégorie. Bon, allez, plus sérieusement.
Donc, sur le service, on est très content cette année. C'est une femme qui a gagné, qui s'appelle Claire Bacle, qui est chez Anne de Bretagne, Mathieu Guibert.
Ah.
Alors, c'est une maison un peu historique qui avait été montée par les VTL.
Et frères et sœurs.
Marie et femme. Et le clin d'œil, c'était que Madame VTL avait eu le prix de la sommellerie il y a 10 ans. Et que Mathieu Guibert avait été
espoir. Qui est le successeur, donc
Et avait gagné le concours espoir. Donc, voilà,
et là, c'est la salle, mais c'est une très belle maison.
C'est une très jolie maison. Et Claire est une jeune fille rayonnante et qui a le service et l'hospitalité de façon innée. Donc voilà, elle a remporté. En sommellerie, c'était Jean-Baptiste Klein de chez Olivier Nasty.
Un immense sommelier par la taille et par le talent.
C'est absolument bien résumé, qui a été en plus cette année.
Oui, de chez Olivier Nasty, le Chambard à Kaisersberg.
Et la pâtisserie, Maxime Frédéric.
Alors
j'adore.
Voilà.
Regardez, Annabelle qui adore la pâtisserie, Leslie qui adore la pâtisserie. Quand on dit Maxime Frédéric, ça fonctionne tout de suite, Annabelle.
Ah, pour moi, il a réalisé cette année une réalisation super basique qui est le pain au chocolat, mais je n'ai de toute ma vie jamais mangé un pain au chocolat comme le sien. Jamais.
Oui, avec une croûte striée, absolument incroyable.
Le visuel est dingue.
La pâte reste moelleuse et ce striage croustille. C'est pas du tout des tablettes de chocolat, c'est de la ganache.
Ça y est.
Et ce dessert aussi, le vacherin avec les feuilles de meringue absolument dingue qui fait en fonction des saisons, avec des agrumes, avec des framboises. Enfin voilà, il a quelques signatures.
Je me dois de parler à nos auditeurs de Sud Radio, dont beaucoup sont dans la région sud-ouest, on parle bien des chocolatines.
On parle des pains au chocolat.
Lançons un débat. C'est la guerre. En tout cas, vous venez faire perdre la moitié de l'audience de cette émission parce qu'ils sont descendus chez le boulanger direct à vous entendre parler de pain au chocolat.
Et Maxime Frédéric, qui était au Georges V jusqu'à, je crois, il passe au cheval blanc. Arnaud Donquel.
Mais Christian Lesquer est extrêmement tranquille sur l'arrivée
De Michael Bartocchetti.
Oui, Bartocchetti, qui est aussi un très beau pâtissier d'hôtel.
Hyper intéressant parce qu'il travaille vraiment le côté végétal et il a une pâtisserie très intéressante aussi, je trouve.
Allez.
Et pour finir, le chef de l'année, effectivement, cette année, il est souvent coutume de dire que c'est lié effectivement aux étoiles, prix. Souvent. Donc cette année, il y avait Mauro Colagreco qui avait 3 étoiles et Laurent Petit, celui qui a remporté le titre, et Mauro Colagreco qui a de façon absolument rayonnante fait partager son prix avec Laurent Petit, ils sont montés tous les deux sur scène et c'était
c'était magique. C'était magique parce que ça ne s'était jamais fait d'associer un confrère à ce titre du chef de l'année. Mauro, il est franco-argentin. Évidemment, il a fait toute sa carrière ici, même s'il a démarré en Argentine. Et avec générosité, il a dit au fond, il le mérite autant que moi. Il a pris les devants. Et la plus belle phrase a été celle de Laurent Petit de dire. Écoute, je te remercie parce que si ça avait été moi, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, moi, de te faire monter sur scène.
C'est
j'ai trouvé
élégant,
ça d'une franchise et d'une élégance extraordinaire.
Et Mauro a fait preuve d'une ouverture et c'est assez agréable dans la gastronomie de voir qu'il y a aussi cette ouverture sur les autres et sur le monde et c'était super.
Mauro Colagreco, 3 étoiles au Guide Michelin, au Mirazur, à Menton. Laurent Petit, 3 étoiles au Guide Michelin, la même année au Clos d'Essence, à Annecy le Vieux.
Exactement.
Voilà, ce sont nos deux nouveaux 3 étoiles et ils étaient associés dans cette
récompense
du chef de l'année.
Pour la 33e édition cette année.
Allez, je vous garde encore quelques minutes, on va faire une petite pause et on revient.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Fernion.
Allez, mes amis, je vous le disais il y a un instant, nous sommes dans la saison des palmarès. À l'instant, nous vous révélions le palmarès du chef de l'année du magazine Le Chef, le magazine professionnel de la profession. Professionnel de la profession, c'est un peu minable.
C'est redondant,
mais je n'hésite pas à être redondant quand il le faut, chère Anne Luzin, la directrice du magazine Le Chef. Alors, on l'a révélé juste avant la pub, le chef de l'année, c'est donc Mauro Colagreco qui a également récolté, enfin dirais-je, ces 3 étoiles au Guide Rouge, au Guide Michelin, juste avant, cet hiver, l'hiver dernier. Alors, on va continuer avec des palmarès, parce que se tenait le même jour que la soirée de chef de l'année, mais le matin, un autre palmarès très attendu dans la profession, mais plutôt celle des, on va dire, des épiciers fins, les épiciers de spécialité, la petite restauration de qualité, c'était le salon Gourmet Sélection, et donc la sélection s'appelle les best-of. Les best-of gourmets, c'est du français ça, Chantal Delamotte, les best-of ?
Mais on s'est dit qu'on pouvait être européen et compris par...
Ah oui, effectivement.
Par tous les Européens.
Le meilleur. Alors, ce salon gourmet sélection, d'abord c'est un salon professionnel, il faut le rappeler. Peut-être que les gens se disent, j'en ai jamais entendu parler.
Absolument. C'est les gens qui, aujourd'hui, vont aller sur la vente professionnelle et pas la vente directe. Parce qu'ils veulent faire connaître leur marque de manière un peu plus large.
Voilà, donc les exposants sont des marques, c'est pas des revendeurs, ce sont des marques, des fabricants, des producteurs, et qui s'adressent à la profession et un peu autour. Peut-être pas assez, parce que je me faisais la réflexion en me baladant, je vois pas assez de chefs. Les chefs cherchent aujourd'hui beaucoup de produits différenciants, ils font du sourcing pour trouver le vinaigre, l'huile, le condiment que les autres n'auront pas. Et là, c'est une occasion fantastique, parce qu'il y a des milliers de produits qui sont présentés.
Oui, effectivement, c'est un salon qui permet de découvrir des belles histoires et des très beaux produits, mais les chefs sont moins sensibilisés encore, et c'est vrai que c'est une perspective pour eux de s'ouvrir sur ce rendez-vous à Paris.
Leslie Gogoua, qui était dans ce jury et qui est rédactrice en chef de YAM, aussi magazine de cuisiniers, de grands cuisiniers de la gastronomie. Vous n'avez pas eu cette impression, vous aussi, que les chefs devraient s'y intéresser un peu plus à Gourmet Sélection ?
Effectivement, et surtout, je me dis que les chefs, ils ont pris une mauvaise habitude, c'est d'attendre que les produits
viennent à eux.
Quand on arrive dans des zones de chefs un peu étoilés qui... parfois prennent la grosse tête, on ne citera pas de nom, mais effectivement...
Ça commence à t'attaquer fort, déjà.
Ils sont trop gâtés, en fait.
Et je me dis qu'ils passent parfois à côté de rendez-vous comme ça, où finalement, en une journée, on a accès à des centaines de produits d'exception. On a eu l'occasion de les goûter quand on a fait partie du jury l'autre fois, justement, pour ces produits Gourmet Sélection. Et j'étais épatée par la qualité, par des produits qu'on n'avait pas vus ailleurs et qui méritent vraiment le détour. Surtout qu'il y a beaucoup de produits bruts. Souvent, les chefs veulent des produits bruts et non pas des produits transformés. Donc là, il y a la chance d'avoir un panel exceptionnel et de me dire, mais pourquoi en fait ils font pas juste la démarche ou même d'envoyer leur sous-chef ou leur brigade ou
je crois qu'on lance un appel aujourd'hui.
Ouais, je crois qu'on lance un appel.
On dirait
lançons
bien.
Un appel parce que j'ai été épatée par la qualité de ce qui était proposé.
Oui, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, c'est un peu les chefs institutionnalisés qui ne viennent pas, c'est-à-dire les cols bleu, blanc, rouge, les multi-étoilés, etc. Parce que dans la bistronomie, ces jeunes chefs qui désacralisent un petit peu, qui font des grands cuisiniers, vous voyez, Anne Luzin, par exemple, il y avait des démonstrations avec Denis Imbrosi, qui est un chef italien qu'on aime beaucoup, Yoni Saada.
Qui sont des curieux, je pense, de découverte aussi.
Voilà, et qui vont un peu fureter, coup, hein, Chantal.
Absolument. Et qui étaient très contents de la découverte des produits.
Ah bah oui.
À la fois italiens, mais. Vous nous mettez l'eau à la bouche, moi je ne connais pas encore ce
alors,
palmarès.
On va vous donner le palmarès.
L'heure du déjeuner approche, on a faim.
Figurez-vous que j'avais la chance d'être à la manœuvre avec ce jury de dégustation. Un travail de folie. Heureusement, Leslie Gogoua était avec moi. Heureusement, Annabelle Chachmès était avec moi également. Et il faut citer Émilie Le Sûr, que vous avez déjà entendu à cette antenne, qui est la rédactrice en chef du journal des femmes.com. Voilà, je m'étais entouré de palais fins et de jugements bien arrêtés parce que c'est un peu un combat, un jury. Hein. Chacun a ses chouchous, chacun a ses goûts. Et puis, t'entends le consensus. Chantal, c'est l'idée. Hein, parce que 200 produits, enfin presque, hein, plus de 190 au départ, et la sélection, c'est une douzaine, hein, quinzaine, une petite quinzaine. Autrement dit, il faut éliminer. C'est très difficile. Hein, c'est un vrai travail. Je ne vais pas me plaindre. On adore ça, découvrir des produits, les goûter, etc. Mais c'est un crève-cœur parfois hein, d'éliminer.
Absolument.
Parce que la qualité, elle ne fait que monter année après année.
Mm-mm. Et des produits qui sont assez équivalents, c'est-à-dire qu'effectivement...
Et oui, dans des mêmes gammes, parfois.
Voilà. Et Vincent, êtes allé sur des prix ex-aequo, du coup.
Ouais, je suis... parfois,
oui, mais on a eu des vraies fulgurances, quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments où c'était pas négociable, en fait. On a vraiment fait... Enfin, je pense que ces ex-aequo, ils étaient aussi pour ça. C'est qu'il y avait des produits, par exemple, dans les condiments, c'était la Maison Martin avec le piment.
Ça y est. Bah, allez, premier produit, Annabelle.
Non, mais c'est pas ça. Mais comme le disait très justement Vincent, quand il a remis le prix, il a expliqué que c'était pas un piment agressif, c'était un piment très très savoureux et qui avait un vrai sens. Et en fait, tous les produits qu'on a goûtés, et moi j'ai eu mes préférés, c'est vrai que imaginez qu'un jour je mange du foie de morue, c'était surréaliste pour moi. Et pourtant, Leslie en est témoin. Il en a pas resté une.
Oui, c'est ça.
Il faut l'avouer. On a fini la boîte.
Alors,
à deux.
C'est extraordinaire. Voilà. Hein. Je vous explique ce qui s'est passé. Évidemment, quand on goûte, on déguste une micro-miette hein, parce qu'il y a tellement
parce
de produits.
Parce qu'il y en a 70.
Et bien, pourtant, la boîte de foie de morue, elle y est passée avec
on peut
Annabelle.
Se confesser
hein.
Aujourd'hui, c'est le moment. Annabelle et moi, on est à l'origine, mais parce que c'était exactement comme tu dis, une fulgurance. C'était une évidence que ce produit avait sa place et méritait de gagner ce prix best-of.
Alors vous qui nous écoutez, vous avez envie de savoir quelle était cette sélection pour pouvoir peut-être retrouver ces produits dans cette distribution spécialisée. On va commencer par... on va faire court hein, parce qu'il y en a quand même 12 plus 2 prix spéciaux. Hein, le prix spécial du jury et le best-of-best. Et ça, c'est un peu comme le chef de l'année. Tout le monde attend le best-of-best de savoir quel est le produit qui a surpassé les autres. Mais tous sont déjà, donc je vous l'ai dit, une issue d'une sélection drastique hein, puisque c'est 5% de la collection de produits proposés. Et encore, j'en ai vu sur le salon après que les gens n'avaient même pas, enfin, les producteurs n'avaient même pas osé proposer. Donc j'ai dit, mais c'est dingue, vous auriez dû le mettre dans le... Enfin, là, je me tire une balle dans le pied. Alors, les produits, on va dire les boissons alcoolisées, mais c'est un terme un petit peu impropre pour le produit dont il est question, c'est Hystérie de la maison Achteoria. Vous voulez m'en parler, Leslie ?
Avec grand plaisir, parce qu'en fait, quand on voit cette sublime bouteille, on peut se dire que spontanément, il y a peut-être un effet marketing, une grande recherche qui a été faite sur l'emballage, qui parfois est déceptif au goût.
Puisqu'on mais dit, qu'est-ce on a que tout c'est mis. Dites-moi ce que c'est.
Ben, en fait, c'est assez incroyable parce que c'est une liqueur, c'est pas du tout agressif. Alors évidemment, à consommer avec modération, on le sait. Mais on a été tous frappés et sur un consensus absolu où finalement le goût marchait sur tout le monde. Donc, et cette boîte nous a beaucoup plu en fait, de ce qu'il y avait derrière.
C'est juste.
C'est une liqueur de quoi ?
Ah voilà. Alors c'est une liqueur d'herbes, d'épices. C'est un mélange, en fait, hein, de herbacées épicées. Mais ce qui est intéressant, fleurie, dirais-je
très
même.
Très fleurie, c'est ce que j'allais fleurie. Dire. Ouais.
Et le but, c'est pas de la boire en liqueur. Le but, c'est de s'en servir comme base dans la mixologie, par exemple. Hein. Donc, c'est un outil utilisable par les baristas, ceux qui veulent faire des cocktails un peu détonnants. Eh bien, cette Hystérie porte bien son nom parce que Moi, je ne la donnais pas gagnante au départ. Hein. Je ne la donnais pas sélectionnée. Tout le monde s'est fait un petit peu avoir par ce goût autre.
Totalement.
Un peu un extraterrestre. Mmh, hein.
Totalement.
Hein, c'était le premier produit. Ensuite, si on continue dans les goûts fleuris, il y avait quand même cette infusion incroyable.
À la mauve.
À la mauve. Ouais.
Ça vous a beaucoup marqué.
Laurier et mauve, merci de vous en souvenir.
Quel
à la
palais,
belle. Un laurier, feuille de laurier qu'on utilise généralement plutôt dans la charcuterie, dans la cuisine mijotée, etc. Et là, de l'avoir comme un apport supplémentaire dans cette tisane. Alors, c'est comment s'appelle-t-elle? Je recherche le nom.
Les infusions du domaine de Saint-Gilles.
Ah voilà, les infusions du domaine de Saint-Gilles, c'est mauve et laurier.
Ouais.
Laurier et mauve.
Alors, avec une couleur incroyable, c'est ça dont il faut parler.
C'est important.
En fait,
hein.
En infusant, oui, ça joue aussi. En infusant, elle devient d'abord le bleu qui vire un peu vers le parme. Et c'est complètement incroyable parce qu'on n'a pas l'habitude de boire
ça, non.
Comme ça.
Non,
pas
non.
Du tout.
Sauf du bleu de méthylène à l'époque. Voilà, quand on était très petit.
On parle d'autre chose.
Absolument. Et naturel.
Mais, oui. Et c'est fait par un ESAT quand même. Donc voilà. C'est important de voir cette
important.
Association de personnes handicapées à la réalisation d'un produit de qualité.
Bah oui, parce que ça raconte une histoire. On sait qu'on. On fait plaisir à des gens en même temps qu'on se fait plaisir à soi-même.
Oui.
Et moi, j'aime bien ce principe. Allez, on continue. Alors, un produit que vous avez adoré, mesdames, c'est le Jimber.
Ah oui, alors ça, c'était génial parce que c'est une base de gingembre quand même assez neutre et à la fois pas neutre. Donc, c'est inexplicable, mais c'est une base de gingembre qu'on peut mettre et dans les cocktails et dans les infusions si on a envie de se faire un petit shot d'énergie.
C'était, et dans l'eau aussi.
Et dans l'eau,
parce
oui.
Parce que je suis repartie, j'avoue, j'ai une bouteille maintenant de Jimber chez moi, et donc boire de l'eau aromatisée au gingembre avec un côté vraiment fort. En gingembre, mais la pureté du gingembre. Voilà.
Parce que ça peut être un peu astringent, le gingembre.
Oui, là, ça ne l'est pas.
Alors, Chantal, vous parliez d'Europe. Hein, c'est le premier produit européen de notre sélection. Il y en a d'autres, on va voir.
Voilà.
Hein, et nous, on n'est pas du tout chauvin. Hein. Lorsqu'on déguste, le goût prime, que ça vienne d'ici ou là. Et là, c'est un produit belge, ce Jimber, avec un gingembre du Pérou. C'est assez inhabituel. Hein. C'est plutôt l'Asie du Sud-Est, en général, qui nous envoie du gingembre. Bon, un peu les Caraïbes aussi, mais ce gingembre péruvien, le fabricant m'a dit, il est très dur. On a bousillé un nombre de centrifugeuses et de presses parce que c'est... Mais du coup, l'arôme est extraordinaire. Vous l'avez aimé, vous aussi, Chantal ?
Beaucoup.
Beaucoup. Tous les matins, maintenant. Un peu de gingembre. Non, mais ça donne la pêche. Allez, j'ai encore 30 secondes pour vous dire que le produit précité, premier produit cité par Annabelle Chachmès, eh bien, c'était cette brise, cette sauce épicée brise.
Alors, moi, je suis fan.
Brise, moi, ça me gêne un petit peu.
Ça me rappelle quand même... Dépassez ce nom, Vincent, et vous allez découvrir un produit exceptionnel. N'hésitez pas à regarder leur compte Instagram, parce que vous allez réaliser à quel point ce produit est naturel. Mmh. Et,
c'est la Maison Martin. Hein,
la Maison Martin, c'est ça. C'est un produit français. Qui a été travaillé comme une réelle sauce. Une réelle sauce, il a été réfléchi, assaisonné, et pas trop transformé.
On peut dire que c'est un tabasco français pas trop fort.
Exactement.
Non mais s'il faut résumer hein, pour se faire une idée.
Ça ne va pas vous anesthésier les papilles, et vous allez réellement pouvoir savourer ce piment comme un condiment.
Savourer ce piment et la suite. Et croyez-moi, on va aller de surprise en surprise, on se retrouve.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, nous sommes dans le palmarès, on est dans le sourcing. Vous êtes sourceur ? Amateur. Mais si vous voulez être sourceur professionnel, il faut nous écouter. Sourceur, c'est aller chercher les meilleurs produits là où ils se trouvent. Et ils se trouvaient en début de semaine et le week-end dernier au Salon Gourmet Sélection à la Porte de Versailles à Paris. Et cette sélection du best-of, le meilleur du Salon Gourmet, ben c'est ce qu'on est en train de vous livrer avec mes invités Leslie Gaugois, Annabelle Chachmès, Chantal Delamotte, la patronne du Salon, et Anne Luzin qui est restée du coup. Hein,
je passe un bon moment, bah oui, j'attends le déjeuner, je suis bien.
Vous aussi, vous aimez bien les bons produits donc,
au
magazine Le Chef. Allez, on continue, on vous parlait de cette sauce épicée. Alors, un autre produit qui semble assez banal, c'est une confiture.
Et élixir.
Élixir. Le nom est déjà magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu alchimique qu'est élixir. Et ça fait référence à un peu un passé de confiturier ancien, à Nostradamus peut-être, hein, qui était confiturier, je le rappelle. Il ne faisait pas que des prédictions, il faisait des confitures. Et cet élixir, alors, tout le monde ne donnait pas gagnant. Hein,
ah, pas du tout.
À l'ouverture du pot, on se disait, bon...
Une autre. Une de plus. Et l'intérêt, alors Leslie va me confirmer ou non, mais l'intérêt, c'est qu'on avait tellement de produits à goûter que... Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des fulgurances. Et celui-ci, enfin, je veux dire, il en a fait partie.
Ah, il nous a mis tout de suite d'accord. Ouais. C'est-à-dire que, en plus, c'est amusant parce que c'est vraiment dans les tout premiers qu'on a goûté. Mmh. Donc, on n'a pas vraiment non plus de comparaison. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça s'est imposé directement. Et c'est une confiture à base de fruits exotiques. Donc, il y a fruits de la passion, mangue. Donc, c'est vrai qu'on
ananas.
Se dit, ananas, mmh. on se dit que c'est assez, entre guillemets, déjà vu ou assez courant. Ouais. Enfin, il y a peu de chances qu'elle nous emporte. Et en fait, on a été vraiment conquise.
Vous avez été emportée.
Totalement.
D'ailleurs, il a fallu que j'aille vous chercher dehors pour revenir dans le jury.
On a volé le pot et on est parti en courant.
Alors, il faut dire que ce ne sont pas des débutants en la matière. C'est une très belle maison de confiture, la Cour d'Orgères, qui a une gamme absolument superbe, hein, qui sont des gens qui travaillent formidablement. Moi, ça ne m'a pas trop étonné, du coup, de les retrouver dans ce palmarès. On passe au produit suivant. Là aussi, un produit un peu extraterrestre, dont moi, j'avais été séduit par la couleur. Hein, mais je me disais, bon, gustativement, c'est un cracker à la betterave. Un cracker à la betterave de mille et une huiles. J'aime bien le nom de la société. Et ce cracker, tout en longueur, tout en finesse, tout en craquant, bah, il est aussi très bon. Et pourtant, la betterave, on en a un peu ras-le-bol dans la gastronomie, on la voit partout.
Mais c'est pour mettre quelque chose dessus
ou
c'est
oui.
D'accord.
Et oui. Alors, l'avantage, c'est qu'il est sans conservateur et il se conserve une bonne année.
Oui. Mais parce qu'il est bien enfermé.
Ouais. Oui, mais si vous le mettez dans un sac hermétique, congélation hermétique,
absolument.
Il va se garder. Hein.
Mais si on ouvre le paquet, vaut mieux une boîte en métal comme les biscuits.
Et si on ouvre le paquet, on le finit, donc tout va bien.
C'est ça.
Pas de problème.
Finalement. C'est ça, quelques graines sur le cracker betterave, une très belle couleur rose pourpre.
Oui, et qui permet aussi de créer des petites recettes à l'heure de l'apéro, soit de s'en servir pour aller prendre des dips avec, ouais. comme façon graissin, ouais. soit vraiment ouais. de créer avec des tartinades dessus et des petits canapés qui changent.
Alors moi, j'ai eu très envie, je vous le dis tout de suite, et c'est très à la mode, ça tombe bien, d'y mettre de l'avocat. Parce que le côté vert jaune de l'avocat avec ce rose pourpre en dessous, c'est magnifique. Je m'habillerai pas comme ça, mais...
Et du chèvre aussi, je trouve que chèvre et betterave, c'est bon.
Ça ah bah là,
oui, c'est très très bon.
Et ça a le goût de betterave.
Et dans le sud, on a des très bons chèvres.
Oui, dans le sud, vous avez des très bons chefs.
Bah oui, il y a des très bons chefs dans le sud.
Il y a des très bons chefs partout
mais
en
oui,
France.
Mais oui, dans le sud encore quand même... plus.
tiens, un petit peu de chauvinisme. Allez, on passe au produit suivant, un produit que j'ai adoré. Il faut dire que j'adore la pistache. La pistache est un fruit à coque dont je raffole. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est une huile de pistache. C'est assez cher, hein, il faut le dire quand même, parce que la pistache, c'est dur à extraire, l'huile de pistache. Il y en a peu. C'est beaucoup moins oléagineux que les amandes ou que les noisettes, par exemple. Alors, je ne parle même pas des arachides. Mais cette huile de pistache, elle a une particularité. Elle vient d'Espagne. Et l'Espagne, c'est un peu le nouveau produit de la pistache. Je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'on est habitué à l'Italie, à la Sicile, on est habitué à la Grèce, on est habitué alors à tout le Moyen-Orient, Irak, Iran, etc. Mais en Espagne, on plante maintenant des pistachiers. Et cette huile, vous l'avez aimée ?
Oui, beaucoup. Elle était... très goûtu, très savoureux.
Expressif, quand
très
goût de pistache.
Oui. Hein,
beaucoup, goût de pistache beaucoup. Un petit peu grillé et une merveille. Bon, il faut un peu casser le porte-monnaie, mais bon, ça, quand on veut des bonnes choses.
Quand on aime, on ne compte pas, Vincent.
Oui, bah, quand même, on compte un tout petit peu quand même, hein, sinon on serait poussé à toutes les extrémités. Je me dépêche un peu parce que je voudrais terminer ce palmarès, il y a tellement de beaux produits. Là aussi, un produit qui n'est partait pas gagnant, du miel. Et on se dit, bon, du miel. Ok, mais ce miel de Calune de chez Miel et Miel, il a une particularité, c'est sa texture, Leslie.
Incroyable. C'est vrai que ça aussi, ça nous a tous emportés. Donc, on était vraiment unanimes, malgré le fait qu'on se dit qu'au départ, il y a tellement de différents miels à goûter. Et celui-là est sorti du lot parce qu'effectivement, un côté où on sent encore le côté un peu... croustillant, j'allais presque dire, dedans. En fait, on a envie de le manger à la cuillère. On n'a pas envie de s'en servir sur une tartine.
Et puis, il est gélifié, quoi.
Alors, le monsieur nous expliquait, le producteur nous expliquait que c'était dû à la pectine.
Dans la plante.
Qui donnait cette texture si singulière et si inédite.
Bah, c'est-à-dire que quand on est habitué à des miels blancs crémeux,
très crémeux,
ils sont opaques. Ils sont opaques parce qu'ils sont crémeux,
là,
il y a de l'air dedans. Là, il n'y a pas d'air dedans, il est gélifié naturellement, donc il est transparent et crémeux. C'est un truc assez étonnant. Allez, à goûter chez Miel et Miel. Encore un mot avant de vous donner les deux grands prix, la sélection le prix du jury et le best of best. Pour ce brewer, alors c'est une machine à café, mais froid.
Cold brew.
un cold brew, voilà. C'est-à-dire qu'on va, comment est-ce qu'on dirait, brasser, parce que brew, c'est brasser, enfin, passer le café, mais à froid.
À froid, exactement. Normalement, c'est juste la fonte des glaçons goutte à goutte, qui en 4 heures va vous donner un cold brew d'exception, puisque les cafés sont d'exception. Et c'est vraiment une extraction à froid du café.
Une extraction à froid. Du coup, on est entre tisane, entre une infusion et un café, avec beaucoup de notes florales qu'on peut perdre, par exemple, lorsqu'on fait un expresso.
Tout à fait.
On va avoir des notes beaucoup plus cuites, beaucoup plus caramélisées. Excusez-moi, le temps passe vite. Alors, je ne tarde pas et on va vous donner immédiatement le prix spécial du jury de ce salon Gourmet Sélection, le Best of Judges Special Award. Hein, c'est notre prix spécial à nous, mesdames. C'était un vinaigre. On est encore sur un vinaigre, mais un balsamique de cerise. Produit italien insensé.
Insensé.
Avec un goût de noyau, c'est ce qu'on attend de la cerise.
Insensé et totalement inédit, en fait. C'était ça, c'est qu'il nous a perturbés de prime abord et en fait conquis ensuite, parce qu'on s'est dit qu'on, pour le coup, ça, on n'avait jamais goûté. Quoi. Enfin,
oui,
pour ma part...
Mais il était assez représentatif de tous les produits qu'on a pu voir dans ce salon. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu affaire. Pourtant, nous, enfin, tous ceux qui sont autour de cette table, c'est vraiment... On voit plein de choses toute la journée, plein de produits, on a des gens qui nous sollicitent. Et là, on était face à des choses qu'on ne connaissait pas.
Et
qui
oui,
étaient exceptionnelles et c'était assez incroyable.
Mais on essaye de sortir des sentiers battus, hein. C'est bien ça la sélection, le Best of Gourmet. C'est un vinaigre donc de cerise, d'une maison italienne qui s'appelle Donna Francesca, et ils n'en sont pas à leur premier coup, ils ont fait un vinaigre de figues que j'ai pu goûter sur le salon, qui est absolument merveilleux aussi. Ça sort des sentiers battus, c'est très différenciant et c'est à découvrir absolument. Et puis, le Best of Best, le prix des prix, le roi des rois. Et là encore, très honnêtement...
Non, mais c'était très intéressant.
C'est une huile. Mais c'est une huile... Ce n'est pas une huile d'olive, parce qu'il y a beaucoup de... Évidemment, beaucoup d'huiles d'olive sont présentées. Il y en a de très bonnes. Celle-ci est une huile de pépins de raisin. Donc, vous savez que c'est la plus fluide et la plus neutre. Sauf que celle-ci, elle est aromatisée naturellement à la truffe blanche du Piémont. Et là, je dois dire, moi, j'ai pris une claque la dégustation. Je déteste les arômes de truffes qu'on trouve maintenant partout dans les préparations.
C'est souvent déceptif.
Bah, oui,
là,
c'est
là,
ça.
Vous n'avez pas l'air déçu du tout.
Et puis, vous sentez l'assiette à 3 mètres.
À 3 mètres, hein, c'est gazeux, il y a une odeur de gaz.
Voilà, de gaz, d'ail, de synthétique. Et là, uniquement du produit naturel. Et à rajouter sur des féculents, pommes de terre, riz, pâtes, un poisson au dernier moment, une salade de haricots, c'est absolument merveilleux. Même sur du fromage,
c'est, juste.
C'est un produit merveilleux et c'est français. La truffe est piémontaise, mais c'est l'huilerie Croix Verte qui se trouve en Vallée de la Loire, à côté d'Orléans. Et c'est un produit merveilleusement français. Ils étaient heureux, Chantal Delamotte.
Oui, absolument.
Ouais, je crois que... Bah oui, parce que ce sont des huileries artisanales qui font beaucoup de produits. Ils ont eu juste la bonne idée de dire « on va pas mettre de saloperie dedans ». Hein ? Et non, mais moi, ça m'a conquis parce que je vous dis, la truffe, elle est présente maintenant énormément et notamment dans les produits présentés cette année. Mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre de l'arôme, de vouloir muscler le goût. Hein ?
C'est très à la mode. L'arôme de truffe, ça fait vendre. Ça fait vendre dans les frites, ça fait vendre tout, en fait. Donc, c'est vrai que beaucoup prennent ce biais facile.
Eh oui.
Là, le mot magique, c'est naturellement aromatisé.
Voilà.
Ce qui est quand même très rare.
Ce jury, c'était un peu Vincent et ses drôles de dames. C'est un peu comme ce matin. Hein
non, parce qu'il y a une vraie collégialité. Hein.
Je ne suis
pas le patron dans le jury.
Tu étais quand même entouré de femmes.
Ah oui, mais j'aime bien parce
comme
que...
Comme ce matin.
Oui, parce que je trouve que vous avez une finesse de dégustation, mesdames, qui manque parfois à nous, les hommes. Voilà.
Oh, c'est mignon.
Ouais. Oh, merci.
Bah, allez, on se retrouve dans une seconde pour vous parler d'un autre palmarès. À tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
La saison des palmarès, ça nous va bien. C'est un peu le Cannes des beaux produits alimentaires et des beaux chefs ce matin. Anne Luzin, qui était avec nous du magazine Le Chef, doit nous quitter. Au revoir, Anne.
Merci, Vincent. À bientôt.
J'espère qu'on se revoit avant l'année prochaine avec le prochain chef de l'année.
Bien sûr, je serai là.
Et comment? Et on continue. Moi, je vous garde le jury, mon jury de rêve, mon équipe, ma dream team de Gourmet Sélection. Chantal Delamotte, la directrice, Annabelle Chachmès, qui est journaliste et auteure de livres de cuisine, et Leslie Gaugois, qui est également journaliste, puisqu'elle est la rédactrice en chef de YAM, le magazine aussi des chefs. Hein, parce que des magazines de chefs, il n'y en a pas tant que ça, et surtout de qualité. Mais nous, on a les meilleurs. Et on va continuer cette émission avec un palmarès qui était très attendu. Et ça, c'était mardi. Hein, je veux dire, on n'a pas chômé cette semaine. Là, lundi, entre vous toutes, mesdames, et mardi, eh bien, il y avait un événement extraordinaire, le Bocuse d'Or, Sélection France. Et j'ai en ligne le directeur des événements gastronomiques de GL Events qui organise le Bocuse d'Or, c'est Florent Supplisson. Bonjour Florent.
Bonjour Vincent.
Alors un bon dimanche matin, merci d'être avec nous au téléphone. Vous êtes forcément à Lyon, hein, puisque vous êtes lyonnais, vous. Donc,
exactement.
Hein, ben voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas en studio. Alors Florent, un petit mot pour le concours, pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi je vais faire simple, hein, puis j'ai la chance de m'en occuper un petit peu, sporadiquement, tous les deux ans, à Lyon. C'est les Jeux Olympiques de la cuisine, le Bocuse d'Or.
C'est effectivement considéré le Bocuse d'Or comme l'un des plus prestigieux concours de cuisine. C'est un concours qui a une vraie valeur pour les cuisiniers, qui est un tremplin professionnel pour révéler ceux qui vont sans aucun doute devenir les futurs grands talents de la cuisine,
bien
les
sûr.
Futurs grands chefs.
Bien sûr, et il y en a déjà eu une pléiade hein, parmi nos grands chefs qui nous régalent, qui sont passés par le Bocuse d'Or, depuis Yannick Aleno, Serge Vieira qui était le second de Régis Marcon lui-même, bien entendu, enfin bon, je ne veux pas faire toute la liste, toujours est-il que ce concours, et qui a été évidemment créé par Paul Bocuse, hein, qui a été l'initiateur, l'inventeur de ce concours, une fois Paul Bocuse disparu, on a envie de savoir si ça va durer.
Eh bien, je le crois, Vincent, et j'en suis même persuadé. Paul Bocuse a donné une impulsion lors de la création de ce concours, très exactement en janvier 1987. Cette impulsion, c'est un petit peu un mouvement, comme un mouvement perpétuel.
Ouais.
C'est-à-dire que le Bocuse d'Or, c'était 26 pays au moment de sa création en 87. C'est aujourd'hui 67 pays
qui
passent ce concours. Ce sont donc 67 sélections nationales. C'est ensuite 4 sélections continentales en Europe, en Asie, Pacifique,
une fois qu'on
en Amérique,
une fois qu'on
en
essaie,
Afrique.
Attendez, j'essaye de comprendre. Une fois qu'on est sélectionné dans son pays, on part à l'échelon continental pour rencontrer déjà les autres nations.
Exactement. Ce n'est pas fini. C'est-à-dire, une fois que vous avez énormément travaillé pour gagner la compétition au niveau national dans votre pays, vous rejoignez une sélection continentale et vous devez en fait arriver dans un certain classement pour être ensuite sélectionné pour la grande finale à Lyon dans le cadre du CIRA. C'est un cycle de sélection qui dure 18 mois.
C'est comme des poules. C'est comme des poules dans la Coupe du Monde de football.
Exactement, hein, et c'est pour ça que je parle d'un mouvement perpétuel, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. En même temps que la sélection du Bocuse d'Or France à la Maison de la Mutualité à Paris lundi et mardi dernier, cette semaine, il y avait la sélection norvégienne à Oslo, il y a eu lundi la sélection aux Pays-Bas, et ensuite il va y avoir d'autres sélections nationales avant la sélection Europe qui se déroulera en Estonie, à Tallinn précisément, en juin 2020.
D'accord.
Donc, alors, il y a toujours un événement Bocuse d'Or quelque part.
Je tiens à dire à ceux qui nous écoutent, excusez-moi de vous interrompre, Florent Supplisson, mais vous vous dites, ah oui, la France, quoi la Norvège, l'Estonie, on a gagné d'avance. Alors, je précise que les Scandinaves, hein, les Norvégiens notamment, les Suédois, les Finlandais, les Danois, ont toujours été sur les podiums et souvent à la première place. Ils sont très très forts.
Ils sont très très forts, ils ont trouvé leur rythme définitivement sur cette compétition, ils sont régulièrement sur les podiums, qu'ils ont largement trusté. ils ont quand même des challengers, la France bien sûr l'a été, mais n'est pas remontée sur le podium depuis 2013. On a vu une victoire américaine, on a vu des pays asiatiques comme le Japon monter sur la troisième marche du podium.
Il y a énormément de pays
capables de monter sur le podium, mais les pays scandinaves le sont effectivement régulièrement.
Alors, Florent, donc, pour en venir à ce qui nous occupe, c'est le palmarès que vous avez révélé, on va dire, mardi dernier, mardi soir. C'est le vainqueur du Bocuse France. Ils étaient combien dans cette finale, en fait, de la France ?
8 candidats avaient été sélectionnés sur une liste qui, au départ, comprenait 74 chefs.
8 candidats qui avaient déjà disputé pour gagner leur place dans cette finale.
Effectivement, ils ont, pour certains, déjà participé préalablement au Bocuse d'Or France. Ils ont effectivement suivi un processus de sélection qui a été orchestré par le comité d'organisation.
Voilà, présidé par Serge Vieira, précédemment nommé l'ancien second de Régis Marcon et qui a été Bocuse d'Or lui-même, hein, Serge Vieira. Donc, on peut peut-être révéler le nom de celui qui a remporté cette sélection et qui donc défendra les chances de la France à la finale à Lyon l'an prochain. Il s'agit d'un Lyonnais, justement. Ça, c'est extraordinaire et je crois qu'on l'a au téléphone. Est-ce que vous êtes avec nous, Davy ?
Oui, bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour, Davy Tissot, Bocuse d'Or de France. Rappelez-moi, au moment où ça vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Tout d'abord, de la joie. De la joie de pouvoir représenter la France.
Ouais.
Et puis, 2-3 secondes après, toujours de la joie en me disant, bon, allez, maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui ? Parce que là, derrière, il y a un gros challenge.
Vous êtes déjà dans la suite, vous ?
Je pense que là, c'était qu'un ticket.
Ouais.
Quelque part, et alors, il faut se mettre tout de suite au travail.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, hein, quand même, Davy, c'est pas un nouveau venu hein, dans ce monde de la gastronomie. D'abord, il est au comité. Hein, on le retrouve à chaque finale lyonnaise où il vient donner un coup de main, comme tous ses confrères, qu'ils soient triple étoilés ou simplement tiennent un bouchon. Ils sont là parce que, d'abord, Davy, il est meilleur ouvrier de France en cuisine, hein, sa marque. Et puis, ouais. C'est le chef du côté gastronomique de l'Institut Paul Bocuse, hein, on peut le dire.
C'est ça.
Donc, vous êtes en fait dans la famille, Davy. Vous êtes déjà dans la famille Bocuse. Du coup, ça vous mettait une pression énorme d'être lyonnais de l'Institut Paul Bocuse. Se présenter, vous deviez avoir une pression incroyable.
Forcément, il y a de la pression, mais après, ce qui m'intéressait, c'était d'y aller en ayant le plaisir. Côté
ouais,
plaisir,
ouais.
Donc on a tout fait, on a beaucoup travaillé. Hein. C'est 3 mois de travail, matin, midi, soir, on ne regarde pas. Mais c'était aller chercher cette notion de plaisir dans le travail.
Bien sûr.
De remise en question, d'humilité, et ça c'était important.
Vous y croyez, vous, donc, à vos chances avant ? Ou vous disiez, oh, ça ne sera pas moi, les autres
Non, on y croit. Hein. De toute façon, on y va pour gagner quelque part.
Hein. Bah oui, oui.
On n'y va pas pour enfiler des perles. Hein.
Je pense à un de vos confrères meilleurs ouvriers de France en pâtisserie, Jean-Christophe Janson, parce que vous avez une particularité. Souvent, les concours, on dit que c'est des trucs de jeunes. Quoi, vraiment, les loups de l'année, les perdreaux de l'année, là, ils ont envie de se mesurer aux autres. Vous avez 46 ans, Davy. C'est déjà plus la période des concours. Et pourtant, vous avez vraiment une belle carrière, vous êtes installé. D'aller remettre ça sur le tapis pour concourir à nouveau, d'où ça vient ?
Là, j'ai gagné déjà 10 ans de moins.
Ah oui, c'est ça. Ça vous a fait retrouver.
Ça m'a redévelé la patate.
Oui.
Voilà. D'ailleurs, on me l'a dit.
Ah donc, oui
ça doit être vrai.
Votre entourage ?
Mon entourage m'a dit, tiens, t'as rajeuni, tiens.
Ah bah tiens,
voilà,
tu devrais faire ça chaque année.
Bien. Voilà, et puis c'est vrai que tous les matins, c'était se dire, allez, je vais me faire plaisir. Et je pense que quand on a cette notion-là, c'est dans la tête.
Bien sûr.
Après, moi, j'adore la compétition, j'adore le sport, tout ça. Et pour moi, je suis heureux, quoi. Je suis heureux quand je fais ça.
Je suis sûr que vous avez un rythme cardiaque qui est très lent. Hein, parce que vous êtes quelqu'un de posé. Je ne vous ai pas vu vous exciter à ce concours comme certains de vos compétiteurs.
Après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un cœur...
Oui, c'est ça, de sportif, d'athlète.
Voilà. Et après, c'est aussi toute l'expérience à travers les concours, à travers les meilleurs ouvriers de France qui permettent aussi d'apprendre la gestuelle. Et puis, surtout la répétition. Je veux dire, quand j'ai commencé à lever un lapin...
Jusqu'à la perfection, ouais.
Aujourd'hui, je mets 4 minutes 30.
Oui, d'accord. Eh bien oui, la répétition du geste, bien sûr. Hein. On le voit chez les poissonniers qui lèvent les filets, hein, ça va vite. Hein. Au bout d'une année de carrière, ou même plus, parfois. Alors, Florence Supplisson, juste un mot. Le concours, il est... Évidemment, toujours sous la tutelle toujours présente de Paul Bocuse, donc lyonnais. GL Events, qui organise et qui possède ce concours, est une société lyonnaise, avec Olivier Ginon, qui est lyonnais. D'avoir Davy Tissot de l'Institut Paul Bocuse lyonnais, je dirais que toutes les cases sont cochées pour parler comme aujourd'hui.
C'est une grande joie pour nous, effectivement, d'avoir un chef comme Davy, un chef lyonnais. qui va concourir sur la grande finale du Bocuse d'Or à Lyon. Et je voudrais juste en profiter pour féliciter de vive voix à nouveau Davy, qui est effectivement, je le confirme, un grand compétiteur. Ça nous fera très très plaisir d'avoir un candidat lyonnais sur le Bocuse d'Or.
Ah oui,
il va jouer à domicile, mais il y a encore quelques étapes avant d'arriver
à Lyon. C'est ça, on l'a compris, il faut aller à l'Europe d'abord. Mais nous, on a confiance. Et puis on connaît Davy, c'est Davy Tissot. L'homme qui n'a jamais peur. Ouais. Merci Davy Tissot. On croise les doigts pour vous. On est très heureux. On partage votre bonheur. Merci Florence Supplisson d'avoir été avec nous pour révéler ce. Là aussi, les petits bonheurs sont bons à prendre et surtout dans le monde de la cuisine. Allez, à très vite. On se retrouve dès que vous aurez passé l'étape européenne. À bientôt.
Allez, belle fin de journée. Au revoir. Merci.
Il me reste le temps de saluer et de remercier mes invités pour tous ces beaux palmarès. Chantal Delamotte, merci d'être venue nous faire part de la sélection des best-of pour lequel nous avons œuvré, mes camarades et moi. Alors, Annabelle Chachmès, qui a quand même goûté des trucs que personne ne voulait goûter, je voulais le dire. C'est la spécialiste du bizarre de l'extraterrestre. Leslie Gaugois, pour sa grande habitude à la tête de ce magazine Yam, le magazine de chef, pour toute cette finesse de dégustation
sur les
produits composés, je dirais. Vous avez un bon palais. Et puis moi, je m'y suis collé parce que c'était juste le plaisir. Merci à tous d'être venus faire votre marché avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 10h, vous connaissez l'adresse, place du marché. Dimanche prochain, on parlera d'une mesure gouvernementale qui a fait beaucoup parler dans les cantines depuis la rentrée, la fameuse journée sans viande. Alors, je recevrai les acteurs et analystes du secteur pour savoir comment procéder pour faire manger des légumes à nos petits, aux élèves, et surtout les résultats que l'on en escompte. Bon dimanche à tous et bon marché sur Sud Radio, bien sûr.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.